bienvenue dans l'émission Livre Lire.
Bonjour à toutes et à tous. Ici Paz, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle petite découverte littéraire. Je reçois aujourd'hui Gérard Muller. Bonjour Gérard.
Bonjour Paz.
Alors forcément, il vient nous rencontrer parce qu'il a un livre à nous proposer qui s'intitule « Juste les mots pour le dire », qui est un recueil de nouvelles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être laisser Gérard se présenter.
Oui, merci. Je suis un nouvel auteur, dans le sens où j'ai commencé à écrire quand je suis parti à la retraite, après avoir passé toute ma vie dans l'industrie aérospatiale, et plus particulièrement satellite, à Toulouse.
Ah, oui. Les satellites.
Voilà. C'est, oui.
C'était un rêve d'enfant de travailler dans ce domaine-là.
Oui, oui. C'est plutôt l'aéronautique, mais je sais pas, le spatial a gagné, finalement.
Oui.
Voilà. J'ai à peu près accompli mon rêve, oui.
Ça, c'est beau. Donc, toute une carrière dans l'aérospatiale et un démarrage d'écriture après, à la retraite.
Voilà. Donc, c'était un rêve aussi. Hein. C'était aussi un rêve. J'ai toujours aimé écrire. Enfin, j'écrivais des petits trucs, des poèmes, des choses comme ça. Et je me suis toujours dit, quand tu partiras à la retraite, tu écriras. Et donc, je suis parti à la retraite. J'ai décidé d'écrire. Et là, j'ai quand même fait le constat, mais sais-tu écrire ? Et ce que j'ai fait, d'intelligent, qui est un peu une démarche d'ingénieur, hein, je me suis dit, ben non, tu ne sais pas écrire, donc tu vas apprendre. Et donc, j'ai commencé à travailler avec un coach d'écriture, un atelier d'écriture, pendant un an. Et ce coach m'a accompagné sur mes deux premiers romans, et il m'a donné toutes les ficelles de l'écriture. Il m'a fait permettre de découvrir mon style, hein, et de l'explorer comme ça. Et j'ai tellement bien appris, j'ai tellement bien assimilé ces cours, que maintenant c'est moi le coach. C'est-à-dire que j'ai un atelier littéraire à Toulouse, où j'accompagne des nouveaux auteurs à leur première nouvelle, à leur premier recueil de nouvelles, et à leur premier roman. Et je suis particulièrement fier. Aujourd'hui, cette année, enfin 2018, j'ai 5 élèves qui ont publié leur premier roman.
Mm-hmm.
Et ça, c'est tout à fait enthousiasmant et valorisant.
Mm-hmm. Et alors, bon, donc vous avez attendu le moment de la retraite pour commencer à écrire, mais visiblement, des idées, vous en aviez plein la tête, puisque, enfin, je ne sais pas combien d'années se sont écoulées, mais vous avez édité de nombreux ouvrages.
Oui, j'ai édité une trentaine d'ouvrages aujourd'hui, en 6 ans, ce qui fait pas mal. En fait, ce que je dis, c'est que comme je n'ai pas écrit pendant 60 ans, ça s'est accumulé dans ma tête, et maintenant ça ressort. Hein, et donc, je n'ai plus aucun problème pour que ça sorte. Et jusqu'à aujourd'hui, la source n'est pas tarie. J'espère qu'il y a encore un peu d'eau qui va couler.
Qui va alimenter le moulin.
Voilà.
Alors, est-ce que vous voulez, avant qu'on parle de celui-là, là, juste les mots pour le dire, dire quelques mots des livres qui ont précédé ?
Des livres qui ont précédé ou qui ont suivi. Donc, mon premier livre, c'est un roman qui se passait dans les Pyrénées-Orientales. C'est-à-dire, c'est là où j'ai découvert mon éditeur, puisqu'il est à Perpignan, qui était l'histoire d'un village abandonné. Un vrai village qui existe d'ailleurs, qui s'appelle Jujol, en face du Canigou, et qui était complètement en friche, hein, et qui a été ressuscité par quelqu'un qui venait de Paris, et qui l'a complètement fait revivre. Et ça, c'est une histoire vraie. À partir de là, j'ai bâti le roman en imaginant que le village était maudit, hein, et que tous ses habitants avaient été trouvés morts un beau jour en 1947, et donc associés à l'histoire de la résurrection de ce village, il y a une intrigue policière, puisqu'il va falloir trouver pourquoi le village était maudit. Et bien sûr, à la fin, on sait pourquoi, hein, évidemment. Après, je me suis intéressé à beaucoup, beaucoup de sujets, c'est-à-dire que je prends un thème, comment je travaille, je prends un thème, ça peut être, par exemple, mes derniers bouquins, c'est l'intelligence artificielle, c'est si Jésus revenait sur la Terre, qui serait-il ? Ce serait une femme, par exemple, hein. Ça peut être. Et là, mon dernier qui sort, qui vient de sortir d'ailleurs, c'est la communication entre les vivants et les âmes des défunts. Hein. où là j'ai imaginé que les âmes pouvaient être dans un champ de particules quantiques, je parle un peu de mécanique quantique, hein, et qu'en fait l'âme n'est pas dans le corps, bon, depuis le temps qu'on la cherche, on l'aurait trouvée d'ailleurs, hein. Elle ne pèse pas 21 grammes, hein, mais elle serait dans l'espace, dans le vide sidéral, hein, et ce seraient des particules que j'ai appelées les soul particles, hein, qui seraient imprégnées par la vie des vivants. Voilà. Mais encore une fois, je ne fais pas de thèse, c'est-à-dire que je prends un thème et je bâtis un roman de fiction, avec des personnages que j'invente, hein, okay, et j'essaye de m'amuser avec ce thème, sans me prendre trop au sérieux, mais quand même en développant le thème.
Alors l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui, ça n'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles.
Oui.
Donc c'est intéressant parce qu'il balaye plusieurs thèmes, là, comme vous dites, hein, plusieurs thématiques. La première des nouvelles m'a beaucoup touchée, puisqu'il y a question d'une mort choisie. Mais pas que, il y a aussi les histoires des deux protagonistes de cette histoire qui sont intéressantes. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette nouvelle-là? Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré?
C'est finalement l'histoire d'un suicide assisté qui se passe en Suisse, mon pays d'ailleurs, hein, où c'est possible. Hein.
Où c'est légal, enfin c'est autorisé.
C'est autorisé, enfin moyennant certaines conditions bien sûr, hein, on ne fait pas ça comme ça. Et c'est un sujet qui m'a toujours passionné, à tel point que j'envisage aussi de le faire pour moi-même, à terme, si j'ai le courage, parce que je pense qu'il faut beaucoup de courage. Hein, c'est facile à dire quand on est en bonne santé, je pense que c'est beaucoup plus difficile à faire lorsque on est un peu atteint. Et alors, j'ai voulu un suicide assisté heureux, accepté et heureux, avec une petite histoire d'amour, etc. Hein, et non pas le suicide assisté où tout le monde pleure, etc. Et donc c'est l'histoire d'un chauffeur de taxi qui est appelé un beau jour à Genève pour une course et qui va voir son client qui est en fait une cliente. Et sa cliente lui demande d'aller tout près de Genève au bord du lac sans qu'il sache la destination finale. Et donc ils y vont tous les deux, ils conduisent. Et là ils tombent effectivement dans une clinique de chez Caritas où sa cliente a décidé d'un suicide assisté. Et cette cliente lui demande de participer, de l'accompagner dans ce suicide. Alors, il est totalement surpris au début, mais elle est tellement sympathique, elle est tellement chaleureuse, qu'il va jouer le jeu. Hein. Et, bon, je ne vais pas dévoiler la chute, mais en fait, il n'a pas été appelé par hasard, et sa cliente lui réserve une surprise juste après son suicide. Le suicide, alors, au niveau littéraire, c'est assez difficile parce que j'essaie de c'est pour ça que j'aime bien écrire, j'aime bien me donner des challenges. J'essaie de me mettre dans la tête de cette femme et d'imaginer ce qu'on pouvait ressentir lorsqu'on décidait d'un suicide assisté et lorsqu'on le vivait. Ce qui n'est pas facile. Mais ce qui est intéressant au niveau littéraire.
Oui, c'est vivre la vie d'un autre qui a choisi de mourir.
C'est ce qui m'intéresse dans la lecture. Dans l'écriture. C'est effectivement essayer de me mettre dans la peau d'un autre, d'une femme, par exemple. J'ai par exemple décrit un accouchement un jour, hein, dans un de mes bouquins. J'ai essayé d'imaginer ce que pouvait être un accouchement. Hein. Bien sûr, je fais relire par des... dans ce cas-là, par une femme. Mais c'est des petits défis littéraires que je me donne.
Oui, d'ailleurs, en début d'ouvrage, hein, vous dédiez l'ouvrage à Catherine, Delphine. Bon, il y a pas mal de noms. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait quand même une nette dominante de femmes.
Oui, en fait, qui sont-elles ou qui sont-ils? Ce sont mes élèves de mon atelier.
Hein? D'accord.
C'est facile.
D'accord.
Donc effectivement, j'ai un atelier essentiellement féminin.
Essentiellement féminin.
Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. Mais je pense que les femmes écrivent plus que les hommes. Hein? Je pense. Dans les salons littéraires, on voit plus de femmes que d'hommes.
Alors donc, cette première nouvelle qui traite de la mort, enfin d'une mort choisie, hein, le suicide assisté. Il y a une autre des nouvelles où la mort est aussi présente, c'est la... Enfin, peu importe, c'est celle qui s'intitule « Le bout du tunnel ». Elle est un peu étrange, celle-là. On a le monsieur qui s'engouffre. On pense qu'il est en train de faire de la spédologie, mais c'est tellement difficile. On se dit comment il va faire pour en ressortir, ça ne sera pas possible. Et il y a aussi question de mort dans cette nouvelle-là.
C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est un monsieur qui va à la recherche.
On n'est pas obligé de tout dévoiler.
De lui-même, mais... effectivement, ouais. qui s'enfonce dans un boyau de plus en plus étroit. Et il arrive juste à passer. Et d'un seul coup, au bout du boyau, il va tomber. Il va tomber dans un gouffre. Et là, il va effectivement retrouver son passé. Mm-hmm. En l'occurrence, son épouse. Mm-hmm. Enfin, je ne vais pas dévoiler.
Bah, non, non,
mais effectivement, non. Le thème de la mort est présent. Mm. Et encore une fois, je pense que c'est une mort joyeuse. Enfin, choisie et joyeuse. Effectivement, c'est un thème qui revient. Vous avez raison.
Ouais.
Je m'en étais pas rendu compte, mais c'est un thème qui revient. Oui.
Bon, alors, évidemment, il n'y a pas que des histoires qui tournent autour de la mort, parce qu'il y en a 14, et ce n'est pas ce qui domine dans le recueil. Alors, il y en a d'autres qui sont plus souriantes. Bon, forcément, c'est toujours le ressort de la nouvelle d'avoir une fin un peu étonnante à laquelle on ne s'attend pas du tout.
Il faut une chute, oui.
Il faut une chute.
Une nouvelle, sans chute, ce n'est pas une nouvelle.
C'est raté. Enfin, c'est une nouvelle ratée. Donc voilà, il y en a qui sont plus souriantes, notamment la faille de Sant'Andreas. Au début, on ne s'attend pas du tout à la fin. Donc très, très bien menée. Voilà. Ah, il y en a une qui m'a aussi fait sourire, c'est le jeu de piste amoureuse. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors ça, c'est une nouvelle érotique. Donc en fait, j'avais écrit pour participer à un concours, au concours de nous deux. Tous les ans, nous deux fait un concours de nouvelles, dans lequel ils choisissent deux nouvelles, une nouvelle classique et une nouvelle érotique. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Bon, c'était un cahier des charges assez spécial. Hein. Il fallait que la nouvelle soit divisée en 10 petits paragraphes, etc. Bon, bref. Et donc, j'ai effectivement imaginé un jeu de piste amoureux, hein, en partant du principe énoncé par un homme politique célèbre qui va me revenir, mais pas non. Qui dit que le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Hein. Donc j'ai prolongé l'escalier, en fait, de l'escalier où il imagine sa promise et tout ce qu'ils vont faire ensemble. De l'escalier, on passe à l'entrée de l'appartement, on visite l'appartement, elle n'est toujours pas là. On déboule sur le palier, on monte sur le toit, hein, elle n'est toujours pas là. Et à chaque fois, il trouve des petits mots. Qui lui donne sa destination prochaine, etc. Et de fil en aiguille, il est conduit à un endroit un peu spécial où il va finalement la retrouver. Vous savez, je retrouve, c'est Clémenceau qui a dit que le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier.
Ouais. Et alors, elle a été retenue, cette nouvelle ?
Non, malheureusement, non. Non. Elle n'a pas été retenue dans le journal Nous Deux. Hein. Sinon, je n'aurais pas pu la publier, d'ailleurs. Parce que les droits d'auteur, ils auraient pris les droits d'auteur, non.
Non. Et alors pour les autres, comment est-ce que vous avez imaginé, pu éditer un jour un recueil, ou est-ce qu'elles étaient déjà écrites pour certaines depuis un moment et vous les avez rassemblées ?
Non, en fait, c'est ça, je les ai rassemblées. Donc il y en a que j'ai écrites comme ça, à l'inspiration. Il y en a d'autres qui viennent de mon atelier d'écriture, parce que lorsque j'anime un atelier d'écriture, je donne un sujet... Et généralement, les élèves doivent faire une nouvelle, enfin un bout de nouvelle avec une chute, si possible, en 40 minutes. Et je me fais un devoir d'écrire moi-même, non pas d'attendre que les gens écrivent, d'écrire aussi, de me confronter aux autres. Hein. Et quelquefois, d'ailleurs, il y a des nouvelles qui sont bien meilleures que les miennes. Hein. Et donc, à cette occasion, il y en a qui sortent et que je continue à travailler après et que j'ai mis dans le recueil. Et puis, il y en a deux ou trois, c'est aussi des résultats de concours. C'est-à-dire, j'ai participé à des concours. Et généralement, quand la première phrase est en italique, ça vient d'un concours où on donne la première phrase, hein, de la nouvelle. Et donc, j'ai essayé de rassembler 14 nouvelles, parce que j'en ai écrit beaucoup, beaucoup plus, dans un recueil à peu près cohérent, même si on passe du coq à l'âne. Mais il y a quand même des thèmes qu'on voulait remarquer, il y a des thèmes récurrents.
Alors je vous propose qu'on découvre d'autres thèmes suite à la petite pause musicale. Qu'avez-vous choisi pour ponctuer notre petite discussion ?
Alors j'ai choisi le métèque de Moustaki parce que je pense être un métèque, ou plutôt avoir été un métèque, comme lui d'ailleurs, puisque j'ai fait 68, j'avais les cheveux longs, je suis allé en Afghanistan à l'époque en deux chevaux pour aller sur la route de l'Inde, etc. Donc j'ai un peu vécu cette période, j'en ai un peu la nostalgie, donc c'est pour ça qu'on va parler du métèque, qu'on va écouter le métèque.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent, avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins, avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim, avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond, avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons, avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire, avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire, avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans, et je serai prince de sang rêveur, ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Alors, pourquoi le choix de cette chanson ?
Oui, comme je vous l'ai dit, parce que je suis un métèque. Hein,
ouais.
Et j'étais un métèque en 68, puisque je suis en Afghanistan, j'étais babacool, etc. Et ça me rappelle, c'est nostalgique, ça, c'est nostalgique, ça me rappelle toute cette époque. Hein. Et chaque fois que je l'entends, j'ai encore des petits frissons dans le corps, etc. Et bien, en plus, je trouve que le texte est très joli.
Ouais.
Je trouve que les textes de Moustaki sont très jolis. C'est un auteur... de poésie et de chansons qui sont vraiment très bien ficelées.
Hein. Et alors, de cet état de babacool, vous avez gardé quelque chose ou vous avez totalement basculé
Alors, j'ai gardé le goût du voyage, puisque je voyage beaucoup. Et d'ailleurs, chacun de mes voyages donne lieu à un roman, d'habitude. Hein. Le dernier, d'ailleurs, se passe en Namibie, où j'étais l'an dernier, hein, qui est une connexion entre... les vivants et les âmes des défunts, etc. Et j'ai imaginé effectivement une jeune archéologue qui débarque en Namibie, travailler sur les gravures rupestres, et qui rencontre là un chaman qui va l'initier à la connexion avec le royaume des morts. Hein. Et elle va s'avouer assez douée dans cette connexion. Mais comme c'est une scientifique, elle va essayer d'avoir une démarche scientifique. Elle va en fait trouver que les âmes résident dans ce qu'on appelle un champ quantique en mécanique quantique. Hein, que ce sont des particules et que la vie des hommes imprègne ce champ de particules d'informations. Et c'est là où se trouveraient les âmes. Hein. Bon, encore une fois, c'est pas une thèse sur la mécanique quantique. Mm-hmm. Bien que mon éditeur m'ait demandé de développer un peu l'aspect mécanique quantique pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Mais c'est un roman dans lequel je m'amuse. Quoi. J'essaie d'imaginer un scénario et puis je creuse avec mes personnages et je vois où ça peut mener. Et je suis moi-même toujours assez surpris de la fin. C'est-à-dire que quand j'écris un livre, je ne sais pas du tout où je vais. Je pars d'un personnage, je pars d'un thème, et au bout de, je dirais, de la moitié du roman, c'est plus moi qui écris, c'est le personnage qui commande. Hein. C'est-à-dire que c'est tout ce qui s'est passé jusque-là, et la psychologie du personnage, ou des personnages, me conduisent à écrire la suite sans pouvoir l'imaginer auparavant. Mais la fin est toujours surprenante. Mmh. C'est-à-dire que même si j'imagine une fin, c'est toujours une autre fin qui arrive. Mmh.
Quand vous commencez à écrire l'histoire,
oui,
la fin que vous avez imaginée sera jamais celle-là.
Voilà. Oui.
Jamais.
Jamais, jamais. C'est-à-dire que je trouve toujours une fin plus originale, plus intelligente, entre guillemets, plus astucieuse, plus surprenante. Oui. Parce que c'est les personnages qui conduisent, hein, c'est plus moi.
Donc les personnages conduisent, donc les personnages vous accompagnent pendant tout le temps de l'écriture.
Voilà.
Qu'est-ce qui se passe quand on arrive, qu'on a mis le point final, qu'on a posé le point final, les personnages, qu'est-ce qu'ils deviennent?
Ah, ben c'est comme un enfant. C'est comme un enfant qui vient de naître. Ben là, il faut l'accompagner un petit peu, faire des dédicaces, etc. Faire un peu de pub, et puis en espérant que l'enfant prenne son envol et vive sa vie. Mais une fois que le livre est fini, il est fini. Il est fini.
Donc les personnages vous quittent?
Les personnages me quittent, oui. Mmh. Assez rapidement d'ailleurs, oui. Peut-être parce que je suis déjà dans un autre livre.
Peut-être parce qu'on a d'autres qui commencent à pointer le bout du nez.
Il y en a qui se bousculent à la porte.
À la porte. Oui. Alors je vous ai proposé éventuellement de lire un passage du livre, et vous en avez choisi un que vous m'avez demandé de lire, donc je m'y mets. C'est le début d'une nouvelle qui s'intitule « À la recherche du matin perdu ». Longtemps, je me suis réveillée de bonne heure. Non pas que je sois obligée de rejoindre absolument un travail ou une quelconque activité importante m'attendait, mais comme un pantin propulsé hors de sa boîte par un ressort, j'étais mue par une énergie, chaque matin renouvelée, qui me faisait sauter de mon lit, aller vers la fenêtre, ouvrir les rideaux pour assister au spectacle de la ville qui s'éveillait, le cœur débordant d'un bonheur jamais inégalé depuis. Les premiers passants rejoignaient leur labeur, les taxis commençaient leur maraude, les boutiquiers relevaient leur store et les gardiens de la paix entamaient leur ronde. Je ne doutais pas un instant que j'étais, en fait, l'ordonnateur de tout ceci. Le grand organisateur de cette mécanique si magnifiquement huilée, qui déroulait ses rouages, devant mes yeux remplis de fierté. L'avion qui traversait le ciel suivait la ligne droite tracée par ma volonté. La fumée qui sortait de la grande cheminée dessinait des volutes sorties de mon imagination. Et même l'oiseau, qui rejoignait son nid en virevoltant, obéissait à mon désir souverain. Je ne me lassais pas d'admirer mon œuvre comme un créateur étonné par sa propre création. Je tirais les ficelles, une à une, de cette programmation impériale qui, à l'instar des particules élémentaires qui ne sont que des ondes et qui ne deviennent matière que lorsqu'on les observe, n'était là que par ma propre détermination. Tout ceci n'existait que parce que je le regardais, que je m'en délectais. Et j'avais conscience que si, par hasard, mon regard se détournait du spectacle, celui-ci allait se coaguler dans une immobilité figée pour toujours. Aussi, je prenais soin de rejoindre la cuisine pour préparer mon petit déjeuner, en ne quittant jamais des yeux mon ouvrage, de peur qu'il ne reprenne sa forme ondulatoire. Alors, pourquoi avoir choisi ce passage-là ?
Alors, d'abord parce que c'est un clin d'œil à Proust, hein, qui est un auteur que j'adore, enfin, je pense comme tous les écrivains, hein, et que j'ai essayé de faire une petite parodie de Proust, hein, alors, et que j'ai appelé « À la recherche du matin perdu ». Oui. En plus, je viens de m'apercevoir effectivement qu'il y a aussi une connotation de physique quantique.
Tout à fait.
que j'avais d'ailleurs oublié, effectivement, est-ce que les choses existent quand on ne les regarde pas, hein? C'est la dualité onde-matière. Hein? Et il y a des gens, même des philosophes assez éminents, qui ont dit que les choses n'existaient que lorsqu'on les voyait. La Lune n'existe pas, sauf lorsqu'on la voit. Hein? Ce qui ouvre tout un pan de philosophie intéressant. Voilà, donc j'ai imaginé ce héros tout à fait proustien, je pense, hein, avec un style, bon, c'est pas du Proust, mais j'essaie de m'en rapprocher, qui, en fait, ne fait rien de sa journée, si ce n'est contempler ce qu'il appelle son œuvre, puisqu'il est persuadé que c'est lui qui organise toute la vie de la ville. Bon, je dis pas ensuite, il y a une chute, bien sûr, il y a une histoire, il y a une intrigue derrière que je ne révélerai pas, mais il y a effectivement une chute.
Forcément, c'est une nouvelle.
C'est une nouvelle, oui.
Alors, on a vu que la mort était abordée, des nouvelles un peu souriantes. Celle-ci est assez courte, d'ailleurs. En fin d'ouvrage, on sent bien que votre bagage scientifique, sans doute votre expérience professionnelle, vous ont amené à réfléchir sur ce que pourrait devenir l'humanité, avec une place de l'intelligence artificielle croissante, avec des robots à l'aspect tout à fait humain. Donc, qu'est-ce qui concrètement vous a servi de support? Parce que sans doute que vous avez connaissance d'avancées technologiques que le commun des mortels n'a.
Ben, j'ai travaillé dans les satellites pendant presque 40 ans, donc c'est mon métier, hein. Un métier passionnant. Et j'ai toujours pensé que l'exploration spatiale ne se fera pas avec les hommes. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'homme ira sur Mars. Aujourd'hui, techniquement, on ne sait pas faire. Il y a déjà des problèmes de radiation aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait pas protéger l'homme d'un voyage d'un an. Enfin, on met 6 mois pour aller, pour aller sur Mars, hein. Et le rayonnement solaire est tel que, de toute façon, si on ne le protège pas, les cosmonautes vont avoir un cancer. Donc, je suis persuadé que l'exploration spatiale se fera par des robots et voire des humanoïdes qu'on dirigera de la Terre. Hein. Et comme d'un autre côté, je me passionne pour l'intelligence artificielle, qui est un sujet quand même tout à fait d'actualité, on en parle de plus en plus, et qui est un sujet qui touche de plus en plus de monde. Tout le monde a un smartphone, c'est un condensé d'intelligence artificielle. Hein. Aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui sont meilleures que des radiologues pour détecter des tumeurs, etc., etc. Et donc, c'est aussi un sujet qui me passionne. Donc, j'ai voulu marier un petit peu les deux, hein. Et imaginez effectivement qu'on n'enverrait pas des hommes, mais des robots, des humanoïdes, dont certains d'ailleurs ont un cerveau qui résulte d'une télétransportation d'un cerveau humain dans un humanoïde. Voilà. Bon, les nouvelles, je pense, elles ont une base scientifique qui est véridique, enfin qui est en tout cas plausible, puisque c'était mon métier.
Hein. Plausible, donc est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour un esprit humain pourra intégrer une machine en quelque sorte?
Oui, je pense qu'on arrivera, alors pas demain, hein. Pas demain, oui, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme ou le post-humanisme. Hein. Je suis persuadé qu'effectivement, d'abord, nous ne sommes que des algorithmes très compliqués. Nous sommes des algorithmes biochimiques extrêmement compliqués. Plus on étudie le cerveau, plus on s'aperçoit que c'est compliqué. Hein, c'est pas simple. Mais je pense effectivement qu'à terme, on sera capable de prendre ce qu'il y a dans votre cerveau et de le mettre dans une machine. Ce qui ouvre des perspectives tout à fait intéressantes. Alors, oui.
Bon, après, nous sommes aussi des animaux, avant tout.
Nous sommes aussi des animaux. Nous sommes aussi des animaux, tout à fait. Et les animaux sont intelligents. Mm-hmm. Et on se rend compte qu'il y a de moins en moins de différences entre l'homme et l'animal. Qu'en fait, vous avez raison, nous sommes des animaux. Hein. Et qu'il faut peut-être considérer aussi l'intelligence artificielle comme un animal aussi.
Ah, ça, c'est
il y a un très bon bouquin qui vient d'être sorti là, de M. Pic, je m'abuse, le titre du bouquin d'ailleurs, qui dit... c'est, ça s'appelle L'intelligence artificielle et les chimpanzés, un truc comme ça, oui, c'est ça le titre. Hein. Et qui dit qu'il faut avoir une approche vis-à-vis de l'intelligence artificielle, comme avec les animaux, puisque les animaux sont intelligents, mais ils ne sont pas doués de langage comme nous. C'est une autre intelligence, donc c'est une autre façon de communiquer avec eux. Mais ils sont pratiquement, enfin presque aussi intelligents que nous. Enfin, ils ont même des intelligences supérieures à nous dans certains domaines.
Bon, en tout cas, j'invite les auditeurs à lire votre recueil de nouvelles. Juste les mots pour le dire, je rappelle le titre. Donc, notre invité était Gérard Muller. Est-ce que vous avez prochainement des événements où vous allez porter ce livre avec les autres, sans doute ?
Oui, alors je suis la semaine prochaine au Salon du Livre de Paris, où je fais des dédicaces sur le stand de mon éditeur parisien. Je serai le 30 mars au Cultura de la Belge, à Toulouse donc. Et ensuite, je fais au mois de mai le Salon de Narbonne, qui est un très gros salon aussi, avec plus de 200 auteurs invités. Donc... Bon, après j'ai d'autres petits salons, d'autres dédicaces.
De belles présentations. Donc vous me disiez aussi tout à l'heure que vous aviez trois éditeurs.
Oui, aujourd'hui j'ai trois éditeurs, dont un éditeur Albi d'ailleurs, qui a un autre regard, hein, qui est un petit éditeur albigeois qui marche bien, et qui travaille vraiment très très bien, et qui a édité deux de mes livres, dont le dernier qui s'appelle Pour la Vida, qui se passe au Costa Rica, d'ailleurs, qui est un pays très écolo, très intéressant, où, d'ailleurs, qui a banni l'armée, il n'y a plus d'armée. Ils ont pris le budget de l'armée, de la défense, ils l'ont mis dans l'éducation, ce qui est formidable. Hein. Ils ont fait le tiers du pays, c'est des parcs naturels. Et donc là, l'histoire de Pura Vida, c'est l'histoire d'un volcan qui s'appelle Arenal, là-bas, qui est toujours en activité. Et j'ai imaginé que mon héros était en fait, comment dit-on une représentation humaine du volcan.
Il y a
le volcan et sa représentation humaine qui vit sous les deux. Voilà. Mais voilà le début de l'histoire.
Bon, ça fait envie, ça donne envie.
Un avatar, voilà, excusez-moi. Ah, c'est l'avatar du volcan.
Donc vous pouvez redonner le titre de ce
Pura Vida, qui est, quand vous allez au Costa Rica, que vous rencontrez un Costa Rica, généralement il vous dit Pura Vida. Ça veut dire, globalement, la vie est belle, profitons-en.
Ah ben, très belle devise. On va se quitter là-dessus, c'est très bien. Eh bien, au revoir à tout le monde. Grand, grand merci à Arnaud qui a assuré la partie réalisation technique de l'émission. Donc sans lui, vous ne pourriez pas nous écouter. Donc merci Arnaud. Très belle journée à tous et à l'Alcôme Québé. Au revoir.
Au revoir et merci.